Le 16 août, c'est la fête de Saint-Étienne. C'est le patron de tous les Stéphanes aussi. Stéphane, Étienne, c'est le même nom. Or, comme il y a tellement de Stéphanes au Québec, c'est l'occasion de leur souhaiter une bonne fête. Évidemment, aux Étienne aussi. Donc, Saint-Étienne, roi de Hongrie, qui est mort en l'an 1038. Un saint beaucoup plus important qu'on ne croit, ce roi. Et c'est un roi venu d'un peuple plutôt barbare et qui s'est sanctifié très rapidement, de façon absolument remarquable. Nous parlerons aussi de quelques bienheureux, en particulier un franciscain et des laïcs remarquables, des Japonais, qui sont morts au début du XVIIe siècle au Japon, martyrs, et aussi du fameux Saint-Roch et son chien. C'est à peu près tout ce qu'on sait de Saint-Roch, n'est-ce pas? On le voit toujours avec son chien. Mais qui était-il? Bien, on le verra aujourd'hui au microphone Raymond Beaugrand-Champagne. Alors, nous commençons avec Saint-Étienne. Vers le centre de l'Europe, on sait que le Danube traverse une grande plaine où un petit peuple qui était extrêmement dur dans ses origines, peuple de nomades, venu d'Asie, s'est installé et il a maîtrisé et souvent même assimilé des populations en majorité slaves. Ce sont aujourd'hui ceux qu'on appelle les Hongrois, dont la langue est très particulière, très différente de celle des peuples des environs. C'était un peuple extrêmement audacieux. C'est le peuple que l'on appelle les Magyars, hein? Et on parle de leur langue comme étant le Magyar. M-A-G-Y-A-R. Ils ont été vraiment la terreur des peuples chrétiens quand ils sont arrivés à la fin du premier millénaire. Et ce peuple a donc gardé toujours sa langue, qui est étrange pour tous les peuples européens de l'Ouest. Mais ce peuple s'est de bonne heure converti au catholicisme. Et de façon remarquable, c'est un des plus grands peuples catholiques de la Terre, les Hongrois. Persécutés, dominés, trahis, ils ont tout souffert, mais sont demeurés fidèles. Ils sont admirables, les Hongrois. Et alors, ce peuple qui est devenu le champion, on pourrait dire, des traditions apostoliques, tout ce qui nous vient des apôtres, ils en ont été le défenseur. Particulièrement, ce peuple a été le défenseur de la chrétienté contre les Turcs musulmans, qui, au nom d'Allah et au nom du Coran, ont cru bon, et c'était dans leur mentalité, d'envahir les peuples, les différents peuples, et on les retrouve très nombreux. C'est eux, d'ailleurs, qu'on retrouve aujourd'hui en l'ex-Yougoslavie, n'est-ce pas, les Bosniaques, d'origine en partie turque, mais qui ont été convertis aussi par les Turcs autrefois, il y a des centaines d'années, à cette grande religion qu'est l'islam, mais très différente de la religion chrétienne sous certains rapports. Je ne veux pas m'étendre sur cette question délicate. Le catholicisme qui a fait du peuple magyar un peuple occidental, eh bien, c'est grâce à Saint-Étienne, ce saint d'aujourd'hui, que le peuple hongrois le doit. Je vous rappelle qu'il est mort en 1038. Étienne avait succédé à son père, qui s'appelait Géza, G-E accent aigu Z-A, qui était un duc païen, qui avait épousé toutefois une chrétienne, qui s'appelait Sarolt. Et grâce à sa femme, il a orienté la Hongrie vers le christianisme. Comme Clovis en France, Étienne a été un Clovis. Vous connaissez le roi Clovis en France, qui était le premier à se faire baptiser. En Angleterre, le nom que l'on conserve dans l'histoire, c'est Ethelbert. En Pologne, c'est Mitchislav. En Bulgarie, c'est Boris. En Russie, c'est le fameux Vladimir. Il était très important, à l'époque, de voir le roi opter pour une religion, car la religion du roi devenait assez facilement la religion de l'ensemble du peuple. On n'a aucune idée de ça aujourd'hui, mais c'était ainsi dans ce temps-là. Une bataille en 955, donc vous voyez tout à fait à la fin du premier millénaire, avait refoulé chez eux les Hongrois, les Magyars, qui étaient toujours menaçants depuis un siècle. Et le duc Géza a compris toutes les ressources qu'il y aurait pour son peuple dans la religion de ces fameux occidentaux chrétiens. Alors il a élevé son fils, qui s'appelait Vaïk. C'est celui qui va devenir Étienne, Saint-Étienne, Vaïk, V-A-I-T-R-E-M-A-K. Alors il l'a élevé selon la religion catholique. Il a admis des missionnaires bavarois, la Bavière dont il est question aujourd'hui dans les nouvelles, où les Bavarois défendent leur foi devant la montée d'une minorité contraire. Mais le christianisme duc Géza, il fallait transformer ça parce que c'était un christianisme un peu de profit. Il voulait profiter d'une certaine culture, d'une certaine civilisation. C'était comme une espèce de plaquage artificiel, enfin. Et ce Géza, ce duc Géza, est mort en 997. Et là, le jeune Vaïk, il était très jeune, on calcule qu'il devait avoir 20-quelques années à peine, hein, puisqu'il était né en principe vers 975, on n'est pas sûr, peut-être 970, donc il aurait eu 22 ou 27 ans environ. Et c'est lui qui a succédé. Il avait été baptisé vers 985, vers l'âge de 10-15 ans, par le fameux saint Adalbert de Prague, dont on parlera un jour. Et il avait reçu, au moment de son baptême, à l'âge de l'adolescence, le nom d'Étienne, ou Stéphane, si vous préférez, Stéphanos en grec. C'était un homme, Étienne, de petite taille, mais on dit, dans les vieux textes d'autrefois du début de notre millénaire, que son âme était immense, elle était grande. Il s'est marié vers 995, donc juste avant la mort de son père, avec Gisèle. Gisèle, c'était la fille de Henri II, qui était duc de Bavière. On retrouve encore la Bavière, n'est-ce pas, cette province très catholique d'Allemagne. Et son père, à Gisèle, c'est Henri II, est devenu empereur, finalement. La jeunesse de notre Étienne s'est trouvée placée, donc, comme chef de la Hongrie, duc de Hongrie, à la croisée des chemins. Il fallait se demander, puisque son peuple n'était pas encore installé, s'il devait aller vers l'Est ou vers l'Ouest. Vers l'Ouest, ça voulait dire vers la stabilité. En somme, il hésitait un peu entre le paganisme, d'une part, ou un retour au paganisme, ou bien s'en aller vers la civilisation chrétienne, vers le christianisme, suivre les traditions ancestrales, païennes, ou bien s'acharner à construire une civilisation nouvelle, une civilisation chrétienne, pour son peuple. Or, heureusement, Étienne a opté pour le Christ. Ça lui a valu les faveurs des grandes puissances de l'Ouest de l'Europe. Ça lui a valu aussi l'indépendance pour son peuple, car il a été respecté. Ça lui a apporté aussi un esprit de sagesse, et un esprit de sagesse qui lui a permis d'organiser sans brusquer son peuple et sans faire des révolutions. Car par la conversion, son peuple, au contact de l'Évangile, au contact des vertus chrétiennes, a été transformé. Il a eu comme aide, notre Étienne, l'aide d'un moine, Astric, qui est devenu évêque. L'influence des moines était immense à l'époque, vous verrez par la suite. Astric a donc été chargé par le duc Étienne d'une mission à Rome auprès du pape Sylvestre II. Il en a rapporté ce que Étienne voulait, un diadème, une couronne si vous voulez, et des pouvoirs pour créer des évêchés, car les rois créaient des évêchés dans ce temps. Vous savez que Louis XIV jouissait encore de ce privilège. Les privilèges des rois, il faut essayer de comprendre ça, c'est pas facile. Mettez-vous bien dans la tête que le pouvoir royal était considéré comme un pouvoir divin. Ce n'était pas des évêques, c'était encore moins des papes. C'était des hommes qui recevaient par l'entremise de l'Église, un pouvoir sacré. Ils étaient d'ailleurs couronnés dans les cathédrales, comme la reine d'Angleterre l'a été, Élisabeth II. On a vu ça à la télévision il y a des années. Et si elle a quelqu'un pour lui succéder sur le trône, on met en doute la succession du trône en Angleterre de plus en plus, mais j'ai bien l'impression que quelqu'un va lui succéder. Vous regarderez bien, vous verrez combien l'Église d'Angleterre et l'archevêque de Canterbury, chef spirituel de l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane, la couronnera en grande pompe. Et alors, le pouvoir qu'il obtenait par cette couronne lui donnait une autorité encore bien plus grande et, à ses yeux aussi, une grâce particulière. Donc, il a été couronné roi à Noël de l'an 1000. C'est grandement fêté. Vous allez voir qu'en l'an 2000, en Hongrie et même par toute l'Europe, on célébrera cet anniversaire, même s'il n'y a plus de roi en Hongrie aujourd'hui. Pour conquérir ces sujets qui étaient des gens très rudes, hein, ils avaient conservé de leur origine asiatique quelque chose de très très rude. Alors pour les conquérir au Christ qui pacifierait ce peuple, Étienne, toujours inspiré par le moine Astric, a eu recours au fameux bénédictin de l'abbaye de Cluny en France. Je vous en ai déjà parlé de l'abbaye de Cluny, et quand nous fêterons les fêtes de Saint-Odon ou Saint-Odilon ou Saint-Hugues, les grands abbés bénédictins de Cluny, nous pourrons nous étendre sur la question de cette abbaye fantastique qui avait un pouvoir par toute l'Europe. Alors donc, ce grand ordre sous la direction de Saint-Odilon, justement, était devenu une puissance internationale, mais aussi un agent d'union pour solidifier l'Église. Alors des moines ont fondé des abbayes en Hongrie qui ont été des centres missionnaires et d'autres maisons de paix, si on peut dire, de cette paix armée de la croix ont été créées. Et notre roi Étienne voulait fonder 12 diocèses, il en a réalisé 10. L'un d'entre eux, d'ailleurs, a été placé sous la direction d'un bénédictin, qui est devenu évêque, donc Saint Gérard, dont on parlera un jour. Et notre roi Étienne a été un bâtisseur d'églises. Il a favorisé aussi les pèlerinages, il a créé des services pour les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem, à Byzance, ou si vous préférez, à Constantinople, Istanbul aujourd'hui, en Turquie, qui était le grand centre de l'Église grecque, de l'Église orientale, pour les pèlerins qui se rendaient à Rome, ou à Ravenne, dont je vous ai parlé l'autre jour, Ravenne, aux basiliques fantastiques qu'il faut visiter en Italie. Il faut absolument voir ça, hein, c'est magnifique. Quand j'y suis allé, il y avait presque personne, bon, il y a bien longtemps, en 1950. J'étais presque seul dans ces monuments d'art uniques au monde. C'est extraordinaire, Ravenne. Alors c'était, pour lui, l'organisation des pèlerinages, puis les services qu'il rendait aux pèlerins, une façon de propager la connaissance de son peuple à l'étranger. C'était une façon d'envoyer des ambassadeurs. Hein. Et il a fait de son mieux pour encourager et protéger les dons qu'on faisait aux églises, qu'il considérait, lui, comme des forteresses d'union et de paix. Il les considérait comme des écoles des âmes, des hôpitaux pour les âmes. Les églises, il avait un respect profond pour... Il était un chrétien étonnant, profondément convaincu, bien que roi. Hein. Il a divisé son pays en 39 comtés, puis à la tête du pays, il a constitué un conseil royal. C'était un excellent administrateur. Il a respecté les vieux clans. Il a ménagé leurs anciennes coutumes. Par ses traditions, il a adapté des lois qu'il avait importées de France et de Bavière pour régler autant l'économique que le politique. C'était un homme très judicieux. Puis il a gardé l'institution du clan, qui était pour lui un élément social et économique extrêmement important. Puis il a combattu le pouvoir tribal, les chicanes, les disputes qui se dressaient contre son pouvoir royal. Mais foncièrement pacifique, Étienne a su toutefois être à l'occasion combatif quand c'était nécessaire. Et au début de son règne, il a lutté contre Copani, qui s'élevait contre lui. Il a vaincu Gyula de Transylvanie. Et en juin, cependant, juin 1030, donc 30 ans après son couronnement, le roi de Germanie, l'empereur de Germanie, Conrad II, a envahi la Hongrie, qui contrecarrait, semble-t-il, sa politique, la politique qu'il avait en Vénétie, c'est-à-dire dans la région de Venise, et à Byzance, en Turquie. Alors Étienne, roi Étienne, qui avait fait arrêter un espion de Conrad qui était déguisé en pèlerin, mais a décrété quoi? Des prières, des jeûnes, pour lutter. Alors, on raconte que les fleuves, les marais, les forêts se sont unis à la famine pour arrêter cette extraordinaire armée de Conrad, l'empereur de Germanie. Les débris de cette armée ont dû se replier, dit-on lamentablement, et le roi Étienne a su défendre ses intérêts d'autre part en Pologne. Dans les Balkans, son action a aidé parfois Byzance, qui lui a envoyé, comme gage d'estime, une parcelle de la Sainte Croix, ce qui était une relique énorme. Et on dit que le chroniqueur Tietmar, un évêque à Merseburg, qui est mort en 1018, a noté dans sa chronique la grande bonté d'Étienne pour les vaincus. La bonté d'Étienne pour les vaincus. C'était un progrès énorme pour l'époque. Le christianisme civilisateur s'installe partout et transforme souvent les âmes. On reproche au christianisme ses excès. Les croisades amères et pénibles. L'Inquisition sous ses aspects les plus négatifs. Quand vend-on vraiment l'aspect civilisateur dont j'étais témoin, moi, en Afrique? J'ai vu ce que la civilisation chrétienne fait parmi ce qu'on pourrait appeler les tribus ou les peuples africains qui se battaient et s'entretuaient. Et aujourd'hui, ils se marient, ils assistent à la messe ensemble, ils travaillent ensemble. D'accord, il y a des chutes et des choses pénibles qui ont surgi encore récemment, épouvantables. Mais qu'est-ce que ce serait sans la civilisation chrétienne? Le fils d'Étienne, Saint-Émeric, héritier de Saint-Étienne, est mort prématurément en 1031. Et on a des instructions que Saint-Étienne aurait écrites à l'intention de son fils, mais leur authenticité est contestée. Donc, on ne peut pas se fier à ces textes-là. Et Étienne est mort paisiblement, peu de temps après, le 15 août 1038, après 42 ans de règne, il était fêté autrefois le 2 septembre, mais sa fête a été déplacée il y a quelques années au 16 août pour le rapprocher de la date de sa mort, c'est-à-dire de son entrée au ciel. Sa femme, Gisèle, la reine Gisèle, s'est retirée chez les bénédictines de Passau et elle est morte vers 1095, abbesse de Niederbourg. C'est sainte Gisèle, dont nous parlerons un jour. En 1083, les reliques d'Étienne ont été élevées, c'est-à-dire qu'elles ont été vénérées avec celles de son fils Émeric, sous le pape Saint Grégoire VII. Et cet honneur insigne, ça équivalait à l'époque à notre canonisation d'aujourd'hui. Le roi Étienne a été vite populaire dans tout l'Occident. Ce plus jeune des monarques chrétiens s'était montré si accueillant pour les étrangers, si bon pour les pèlerins, que partout en Allemagne, des courants de dévotion soutenus par des pèlerinages hongrois à Cologne ou à Aix-la-Chapelle ont procuré à notre Saint-Étienne un culte, non pas universel peut-être, mais en tous les cas, localisés à partir de certains centres de pèlerinage comme ça. Puis on pourrait trouver des traces des relations d'Étienne avec des points aussi éloignés de la Hongrie que Namur en Belgique et même le Mont Cassin en Italie. Le grand monastère bénédictin, le Mont Cassin. Il eut même des rapports avec la Russie et cela et son zèle pour les pèlerins explique le prestige de Saint-Étienne hors de la Hongrie. Sa fête a été célébrée en Hongrie le 20 août. Il eut aussi un office le 11 octobre. Aujourd'hui, en tous les cas, c'est le 16 août que c'est célébré à travers l'Église. Il est mort au plus septuagénaire. On croit qu'il avait environ 60 ans. On ne sait plus à le représenter vieux. Pourtant, on dit qu'il était encore fort bien. J'ai vu des tableaux. On le représente à genoux, n'est-ce pas, recevant sa couronne. Mais il était jeune quand il a reçu sa couronne. Alors, il faut se méfier des tableaux. On le voit, quand il reçoit sa couronne, il est vêtu d'une espèce de chasuble, d'un manteau de couronnement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Étienne, en grec, se dit Stéphanos. C'est pour ça qu'il est le patron de tous les Stéphanes, ce qui signifie couronne. J'aimerais ajouter une note. Étant donné que je vous parle du presbytère de la paroisse Saint-Benoît, fondateur des Bénédictins, nous sommes sur l'avenue du Mont Cassin. Je voudrais ajouter une note en disant ce que ont écrit des moines bénédictins qui ont rédigé ce texte qui m'a beaucoup inspiré, les Bénédictins de Paris, de l'abbaye de Paris, dans le 16e arrondissement à Paris. C'est à visiter, hein. On peut aller à la messe, là, le dimanche, c'est très beau, ou sur semaine. Donc, ces bénédictins nous disent que Saint-Étienne, qui était un grand ami des bénédictins, des fils de Saint-Benoît, a été un monarque d'esprit bénédictin. Je lis ce qu'ils ont écrit, ces bénédictins, du 20e siècle. Cette piété liturgique, ce sérieux, cette sagesse, cette hospitalité large, vous savez que les monastères bénédictins sont réputés pour leur hospitalité, cette hospitalité large, cette bonté, ce goût de prendre conseil, ce penchant pour la paix. Vous savez que la devise des monastères bénédictins, c'est Pax, hein, la paix. Ce penchant pour la paix, cette monnaie probe, tout cela conviendrait à un grand abbé, écrivent ces bénédictins. Saint-Étienne aurait même été plus bénédictin que Saint-Benoît, disent-ils, s'il est vrai que chaque année, il déposait sa charge en l'église de Saint-Martin. Chaque année, il se dépouillait de sa charge à l'église Saint-Martin. Pourquoi Saint-Martin? Parce que c'était le grand évangélisateur moine de France, mais surtout parce que c'est celui qui a donné la moitié de son manteau à un pauvre gueux. Alors, voulant imiter Saint-Martin, il déposait sa charge, c'est-à-dire son pouvoir, pour le reprendre, évidemment. On dit que les bénédictins ajoutent la règle des moines n'en demande pas tant à l'abbé de nos monastères. Je trouve ça assez sympathique de la part de ces bénédictins d'écrire cette chose. Donc, Saint-Étienne a été pour la Hongrie cette lumière dont parle Jésus, pour son pays, mais aussi pour l'Église universelle. Et contrairement à d'autres souverains qui ont été canonisés, il a gardé sa place dans le nouveau calendrier liturgique. Des miracles se produisirent sur son tombeau, et c'est en 1686 que le pape Innocent IX a étendu la dévotion à Saint-Étienne à l'ensemble de l'Église catholique. Donc, un roi canonisé, Saint-Étienne de Hongrie. On peut invoquer Saint-Étienne aujourd'hui dans toutes les églises catholiques, et je vous récite en terminant cette brève prière que nous invite l'Église à réciter au cours de la messe aujourd'hui. Seigneur, Père, ton Église avait en Saint-Étienne de Hongrie un propagateur de l'Évangile quand il était roi sur la terre. Permets que ton Église trouve en lui un défenseur maintenant qu'il est dans la gloire du ciel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint pour les siècles des siècles. Amen. Je vous ai donc parlé de Saint-Étienne, roi de Hongrie, et maintenant de Saint-Roch, tout à fait le contraire, un pèlerin, une sorte de Saint-Joseph-Benoît-Labre. Saint-Joseph-Benoît-Labre, qui est beaucoup plus connu finalement que Saint-Roch. Saint-Roch, on connaît son nom, on ne sait pas qui c'est. C'est un Français d'origine catalane. Saint-Joseph-Benoît-Labre était tout à fait français. Deux grands pèlerins pauvres, Benoît-Labre est du siècle dernier, Saint-Roch est du XIVe siècle. Il est né aux environs de 1300. Et c'est un des saints les plus vénérés de la chrétienté. Donc d'origine catalane. Sa mère était assez âgée quand elle l'a mis au monde. Il a été élevé très chrétiennement, rien de spécial. Mais il a perdu ses parents entre 15 et 20 ans. Il était donc orphelin. Et il a décidé de se rendre en pèlerinage au tombeau des apôtres, comme on dit, c'est-à-dire de se rendre à Rome, au tombeau de Saint-Pierre et au Vatican, où il y a l'autel où célèbre la messe le pape, et sous cet autel, comme je vous ai déjà spécifié, il y a le tombeau de Saint-Pierre. Et il voulait aussi aller au tombeau de Saint-Paul, ou à la fameuse basilique de Saint-Paul hors les murs. Ce sont des endroits à visiter. Si vous avez l'occasion, c'est merveilleux de tout visiter ça. Et après avoir distribué de larges aumônes aux pauvres et confié à son oncle paternel l'administration de ses biens parce qu'il avait hérité de sommes assez énormes, il a porté un vêtement de pèlerin, on portait ça à l'époque, et il a pris ce qu'on appelle le bourdon. Le bourdon, c'est un bâton de pèlerin. C'est le fameux bâton qu'on voit toujours dans les images ou les statues de pèlerins. Mais c'est aussi très agréable quand on fait des pèlerinages. J'espère que beaucoup d'entre vous en ont fait, ou que vous avez fait de la marche à pied. C'est tellement merveilleux que de se promener à pied dans les campagnes, dans les montagnes. Ce sport qui se pratique de plus en plus au Québec, se pratique de façon fantastique en Europe. Il y a des sentiers merveilleux. On peut marcher des jours, des jours, des jours en France sans vraiment être ennuyé par quoi que ce soit, de village en village, de petits prieurés, de petits monastères, en château, en toutes sortes d'endroits, les petits lacs, les rivières et tout ça. C'est tellement beau que de marcher à la campagne comme ça, faire comme un pèlerin, comme Saint-Roch, comme Saint-Joseph-Benoît-Labre, avec son bourdon en main, n'est-ce pas? C'est très agréable. C'est de mettre jusqu'à un certain point cette parole de l'Évangile qui habitait Saint-Roch. C'était la parole préférée. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. C'est très simple, au fond. Et c'est ce qu'il a fait. Mais c'est pas si simple que ça, au fond. Oh non, oh non, on peut avoir beaucoup d'admiration pour ce Roch. Il était arrivé, comme ça, devant Aquapendente, c'est une petite ville des Apennins en Italie. C'était alors ravagé par la peste. Mais au cœur de Saint-Roch habitait un esprit de dévouement fantastique. Et il a réussi à enrayer la peste par le soin qu'il a accordé aux malades. Et de là, il est passé à Cézanne, où il s'est dévoué de la même façon, puis finalement il a gagné Rome, où la peste sévissait aussi. Alors là, il a prodigué ses soins à un malade illustre, un cardinal de Rome, que un des biographes de Saint-Roch qualifie de Britannicus, c'est-à-dire d'anglais, si vous voulez, et que l'autre
dit être originaire d'Angleria, c'est-à-dire Angera, en Lombardie. Alors on voit anglais, là ça se mélange, mais c'est probablement un cardinal italien de Lombardie, dit-on. L'ayant donc soigné et guéri, le cardinal, en effet, son protecteur et roc, est resté 3 ans auprès de ce cardinal. Après quoi, son cardinal étant mort, il a pu retrouver sa liberté de pèlerin. Et il n'en était pas fâché. Il préférait ça. Alors il se rend presque au pas de course à Novare, puis à Plaisance, en Italie, où il est saisi du mal de la peste à son tour. Il souffre terriblement. Or, il ne veut pas être à charge de qui que ce soit, alors il se réfugie dans une forêt. Et il s'y construit une pauvre cabane, une cabane de branchage. Savez-vous que j'ai vu ça de mes yeux vus? C'était en 1971, au mois de janvier. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était au Cameroun. J'étais allé dans les campagnes du Cameroun avec le cardinal Léger. Dans sa petite voiture, il conduisait une petite 2 chevaux. Dans sa soutane kaki, son béret sur la tête, il conduisait la voiture à grande vitesse. Il aimait la vitesse. Il m'inquiétait sur les routes de terre du Cameroun. On faisait de la poussière derrière. C'était terrible. Et arrivé dans ce petit village, il y avait là une léproserie qu'il avait installée. Et sur une colline, grâce à vos dons, aux dons des Québécois, le cardinal Léger avait réussi à faire construire des grands rectangles de ciment pour y installer des cabanes en dur, comme on dit, des maisonnettes pour des lépreux. Il faut avoir vu des lépreux dans sa vie pour savoir ce que c'est épouvantable. Mais il n'y avait pas assez de maisons pour loger tous les lépreux. Et avec une sœur dominicaine, médecin, une Française, qui m'était extrêmement sympathique, nous avions rapidement sympathisé, elle m'a amené voir les autres lépreux, où ils étaient très peu nombreux, une demi-douzaine, qui logeait encore dans le bas de la colline, sous les arbres, dans la forêt, dans la jungle. À peine quelques petits rayons de soleil qui frappaient le sol, quelques petites taches d'or. Et nous sommes approchés par des sentiers d'une cabane en branchage, comme celle de notre Saint-Roch. Et à la porte de la cabane, il y avait une toute petite femme, oh, elle ne mesurait même pas 4 pieds. Toute maigre, édentée, très âgée, ratatinée à la figure. Oh, elle était si maigre, c'était terrible. Mais elle n'avait pas de doigts, elle n'avait que des moignons. Et ça m'a tellement épouvanté que j'ai pas pu m'empêcher de m'approcher d'elle le plus rapidement possible pour la serrer dans mes bras. J'avais le goût de pleurer. C'est tellement pénible à voir. Et nous sommes entrés, elle m'a invité à rentrer dans sa cabane. Alors je suis entré, car je connais les coutumes africaines. C'est un grand honneur pour eux de recevoir un étranger. Alors je suis entré. Mais en entrant, je ne pensais pas aux détails assez saisissants. C'est que quand on entre dans une maison en Afrique, on reçoit un cadeau. Et cette vieille africaine est allé au fond de sa petite cabane et j'ai entendu des bruits de poules. C'était une poulette brune. Elle avait pondu, comme dans les chansons de notre enfance. Et elle est revenue avec 2 petits œufs qu'elle tenait dans ses moignons. Je ne sais pas comment elle réussissait à les tenir dans ses moignons, mais c'est l'habitude des gens handicapés qui font toutes sortes de choses qui nous étonnent toujours. Et elle est venue avec ses 2 œufs, puis elle me les a offerts. Mais je n'osais pas les accepter. Mais la sœur m'a dit, il faut les prendre. Mais j'ai dit, c'est tout ce qu'elle a. Et elle me les donnait avec ce grand sourire édenté, ses yeux rougis par la souffrance. Le blanc des yeux, je les voyais, à peine. C'est pas près de tout ce que je voyais, dans la noirceur. Et je suis parti avec les deux œufs, et elle me suivait pas à pas. Et nous sommes remontés sur la colline, et elle me suivait constamment, avec une estime et je ne sais quel attachement. Et j'ai rarement été aussi aimé de ma vie, on dirait. C'était terrible. Ce sont des moments dans la vie hein, qu'on n'oublie jamais. L'amour de ces vieilles chrétiennes, les vieilles catholiques du fond de la jungle d'Afrique, qui est plus grand que l'amour que l'on ressent souvent nous-mêmes pour des gens qu'on devrait aimer tellement plus. Alors pour revenir à Saint-Roch, eh bien Dieu ne l'a pas abandonné dans sa capanne de branchage, pas plus que cette vieille femme n'avait été abandonnée et grâce au cardinal Léger, quelque temps plus tard, elle a pu habiter une maison sur le sommet de la colline. À l'ombre d'arbres quand même, mais loin de la boue, loin des inondations, loin de l'horreur. Et alors, Dieu a fait jaillir une source d'eau vive, où Roch pouvait se désaltérer et laver ses plaies, qui s'étaient formées, particulièrement à l'aine. Et finalement, le chien d'un seigneur lui a apporté son pain quotidien. C'est pour ça qu'on revoit toujours Saint-Roch avec son chien. Le chien dérobait à la table de son maître un peu de pain pour l'apporter à son ami Roch. Le maître a suivi un jour son chien et à la voix de Saint-Roch, et en entendant ce qu'il avait à lui dire, ce maître a renoncé à sa vie égoïste et fastueuse pour embrasser la pauvreté. Et sur un ordre du ciel, Roch guérit, a regagné sa patrie, il est remonté la péninsule de l'Italie pour se rendre à Montpellier, mais il s'est vu arrêter comme espion à un moment donné, justement en Lombardie. Et d'après le chroniqueur vénitien Diedo, il est arrivé à Montpellier, sa ville natale, où le gouverneur de la ville, son oncle, ne l'a pas reconnu. Il l'a fait enfermer dans la prison municipale, car il avait mendié. Comme aujourd'hui, en France, on tend à arrêter les mendiants, et les évêques s'opposent à ça actuellement en France. Il a été oublié dans la prison. Il est mort au bout de 5 ans. Il est alors reconnu par son oncle, selon le chroniqueur vénitien Diedo. Il a été reconnu aussi par sa vieille grand-mère grâce à une croix rouge qui marquait sa poitrine dès sa naissance et qu'on avait vue au moment de sa naissance. Et d'après le chroniqueur, toujours Diedo, le culte de Saint-Roch serait parti de Constance où il a été invoqué en 1414 durant le concile de Constance contre la peste qui y sévissait. Et de là, son culte est passé à sa ville natale de Montpellier, puis dans le monde entier, mais surtout en Italie, dans les Flandres, en Belgique. Saint-Vincent Ferrier, le grand Saint-Vincent Ferrier, j'ai hâte de vous en parler, et les Dominicains, car Saint-Vincent Ferrier était Dominicain, ont été d'ardents propagandistes de son culte. Ce qui fait supposer que Saint-Roch aurait été tertiaire dominicain et non pas tertiaire franciscain, comme certains prétendent. Le culte de Saint-Roch a été solennellement confirmé par le pape Urbain VIII et par des décrets de la Sacrée Congrégation des Rites dès les 16 juillet 26 novembre 1629, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Je vous ai donc parlé de Saint-Roch, mais il y a aussi un autre Saint-Roch, Saint-Roch González, qui a fait partie du groupe des trois jésuites espagnols, qui ont ouvert une mission au Paraguay, en Amérique du Sud. Ils ont été assassinés en 1628 et leur fête est célébrée le 17 novembre. Quant à Saint-Étienne, il y a d'autres Saint-Étienne, en particulier Étienne Cueneau, qui est né à Beaulieu en France en 1802. C'était un prêtre des missions étrangères. Il a été envoyé au Vietnam, puis il a été sacré évêque à Singapour. Il a connu 15 ans d'un bon ministère fructueux, mais il est devenu l'une des premières victimes de la fameuse persécution au Vietnam en 1861. On dit qu'il aurait été empoisonné dans sa prison toute façon, il est mort en 1861. Il a été canonisé il n'y a pas tellement longtemps, en 1988. Il est fêté, lui, le 14 novembre. Et maintenant, nous approchons du Japon. Voici le bienheureux Jean de Sainte-Marthe, un franciscain, qui est né en Espagne, vers 1578. C'était un chantre extraordinaire. Il avait, paraît-il, une voix phénoménale. Il était chantre à la cathédrale de Zamora. Zamora, en Espagne, est réputé pour ses bons vins. Jean est entré chez ceux qu'on appelle les frères mineurs observants, donc chez les franciscains de la province de Saint-Jacques. Il a été envoyé aux Philippines, dans le Pacifique. J'aimerais vous parler deux secondes des Philippines. Vous savez qu'il y a 7000 îles volcaniques aux Philippines. C'est immense. C'est absolument phénoménal. Les îles ont appartenu aux Espagnols pendant des siècles, jusqu'en 1899, quand elles sont passées sous la juridiction des États-Unis. Mais elles ont gardé leur foi catholique. Et c'est l'avancée catholique la plus importante vers l'Asie, car c'est assez loin dans le Pacifique, vers l'Asie, les Philippines. Et en 1946, les États-Unis leur ont accordé la liberté, leur indépendance. Et les Philippines sont donc un pays indépendant, constitué de 7000 îles. Elles ne sont pas toutes habitées, soyez sans crainte. Et puis, une population très nombreuse, profondément catholique, remarquable, malgré tout les difficultés que les Philippinos ont, n'est-ce pas, ou les Philippins, ça dépend comment on les appelle. Donc, notre Jean de Sainte-Marthe a été envoyé aux Philippines, mais il a demandé à passer au Japon, préférait le Japon. Mais le pauvre lui, on appréciait ses qualités de chanteur et de chantre à l'église et de musicien. Et ça a pris des années avant qu'on le laisse partir, et ce n'est qu'en 1607 qu'enfin il a pu réaliser son rêve de se rendre au Japon. Mais 7 ans plus tard, en 1614, il y a eu un édit de l'empereur du Japon, un édit de persécution qui l'a obligé de s'en aller. Mais il est revenu bientôt au Japon. Il était attaché au Japon. C'est un des mystères des missionnaires, qui s'attachent comme ça à des pays, on ne sait pas trop pourquoi. Comme mon ami le père Claude Sumner, qui vit depuis plus de 40 ans en Éthiopie, et pour lui, il est éthiopien. Il me le disait l'autre jour encore, je me sens beaucoup plus éthiopien qu'occidental. Pourtant, il a été formé ici à Montréal, jésuite. Donc, il est retourné au Japon pour continuer secrètement son ministère, mais là, il a été arrêté l'année suivante, en 1615. Il était enfermé avec des détenus de droit commun, qui l'injuriaient, le maltraitaient, lui arrachaient les cheveux, le piétinaient. Le 16 août 1618, 3 ans plus tard, sans avertissement, le père Jean de Sainte-Marthe a été tiré de la prison puis condamné sur le champ à mort. Sa barbe était si longue qu'elle descendait au-dessous de la ceinture. Après 3 ans de prison, ses cheveux couvraient ses épaules. Pourquoi? Parce que, à cause du règlement des prisons, on interdisait tout couteau, tout rasoir. Il n'avait pas pu se couper les cheveux du tout, ni là-bas. Il a prêché en allant au supplice, et quand il y est arrivé, il entonnait de sa belle voix le psaume Laudate Dominum Omnes Gentes. C'est le plus court des psaumes. Louez le Seigneur, ô vous tous les peuples de la terre. Là, il a aperçu un catéchiste, il l'a appelé. Il lui a fait ses dernières recommandations. Puis enfin, il a prié pour la conversion de l'empereur du Japon et de ses ministres, avant de tendre son cou au bourreau. 5 chrétiens qui avaient voulu lui donner une sépulture ont été mis en prison. Durant plus d'un an, ils ont été martyrisés l'année suivante. Jean de Sainte-Marthe a été béatifié par Pie IX au siècle dernier, le 7 juillet 1867. Rien de plus bouleversant d'ailleurs que de lire les récits des martyrs de ces Japonais dans toutes sortes de livres. Il y a beaucoup de livres au sujet de... On peut trouver aussi dans le martyrologe de l'Église du Japon. C'est très très intéressant. C'est en plusieurs tomes. C'est écrit par Monsieur Profilet. Il y a aussi l'histoire de la religion chrétienne au Japon. Par Pagès, mais il y a des livres beaucoup plus récents, en particulier les livres très littéraires, mais très beaux et très véridiques, de cet écrivain dont je vous ai parlé l'autre jour, Suzuku Endo, E-N-D-O. C'est publié en général chez Buchet-Châtel, mais vous les trouverez en librairie simplement en demandant l'écrivain japonais Endo, grand écrivain catholique. Il y a aussi aujourd'hui les bienheureux Simon Bukuzai Kiyota, un homme marié. Et ses quatre compagnons, qui sont ses quatre compagnons? Mais tout simplement sa femme, qui a été martyrisée avec lui, et un autre couple de Japonais, martyrisé aussi avec lui, et le fils de ce dernier couple, un jeune garçon. C'est arrivé 2 ans plus tard, voyez-vous, Jean de Sainte-Marthe est mort en 1618, martyrisé, eux en 1620. C'est donc à 1620, à Konkura, qui est la capitale du Bougen au Japon. Le gouverneur Yatsundo condamna à mort Simon Bukuzai Kiyota. Son crime, c'était d'avoir continué à enseigner la doctrine chrétienne, malgré les édits de l'empereur. 4 autres Japonais, donc, comme je viens de vous le dire, étaient considérés comme ses complices, ont été condamnés avec lui. Donc, c'était sa femme Madeleine, son hôte qui habitait sous le même toit, Thomas Gengoro, et sa femme Marie, puis leur fils Jacques. Et cet enfant cruellement battu. Vous savez, c'est, les martyrs des Japonais, il y a quelque chose de barbare, d'épouvantablement barbare, et c'est étrange, ce peuple si impeccable dans toutes ses allures et cette politesse exquise, et ils sont merveilleux, les Japonais. Mais c'est curieux comme ils peuvent être barbares à certains moments, hein. C'est bien mystérieux. J'imagine qu'il y a des livres qui ont dû essayer d'analyser ça, même des livres de psychanalystes, de psychiatres japonais, car il y a d'éminents savants et des génies au Japon, hein. Quel peuple admirable avec leurs musiciens extraordinaires. Donc cet enfant a été cruellement battu et crié au juge, selon la chronique du temps, « Jamais vous ne m'arracherez par la violence ce que vos caresses n'ont pu obtenir. Ce serait vouloir me traiter en enfant. Mais alors voici ma poitrine, voici tout mon corps. Percé et déchiré, je suis chrétien, je le serai toujours. » C'est un peu comme notre bienheureux Zaïrois d'hier qui a 23 ans, s'est laissé tuer comme ça par un Belge, un monsieur Van Cotter. Ils sont extraordinaires, ces jeunes chrétiens. Quelle puissance les habite. C'est là qu'on peut s'imaginer et croire vraiment que l'Esprit Saint les habite. Dieu amour. Dieu de vérité, qui proclame la vérité par leur bouche. Le supplice de nos martyrs a commencé le 16 août 1620, 2 heures après le lever du soleil, donc très tôt le matin. Ils furent tous les 5 crucifiés la tête en bas. Simon et Madeleine, Simon c'est Simon Bukuzai Kiyota, le principal, et Madeleine, sa femme, ont expiré le lendemain. Quant à l'autre couple, Thomas Genzoro et son fils Jacques, ont vécu pendant 3 jours entiers. Ils furent achevés à coups de lance. Leurs corps ont été réduits en cendres et jetés à la mer. Tous les 5, c'est des laïcs, je vous le rappelle, des laïcs, ont été béatifiés par Pie IX le 7 juillet 1869. Quand on lit ces récits, on se demande où est notre courage à nous, Québécois, hein? À nous, Montréalais. Qu'est-ce qu'on fait de notre foi, comme disait Jean-Paul II aux Français? Qu'avez-vous fait de votre baptême? Hein? Qu'avez-vous fait de votre baptême? Et dans l'écho de Marie dont je vous ai parlé hier, puisque nous sommes au lendemain de l'Assomption, je m'y référais pendant une semaine à l'occasion. Marie attend avec patience le règne de la paix, le fruit de notre réconciliation et de notre mission. C'est ce qu'on écrit dans ce numéro 121. Et dans le message qui nous est donné de la Vierge à Medjugorje, vous pouvez le prendre ou ne pas le prendre, vous n'êtes pas obligé de croire, je vous le dis, à ces apparitions. Hein. Elle dit, chers enfants, aujourd'hui je suis heureuse de vous voir en si grand nombre, de voir que vous avez répondu et que vous êtes venus pour vivre mes messages, vivre mes messages. Je vous invite, petits enfants, à être mes joyeux porteurs de paix dans ce monde troublé. C'est très beau. Être mes joyeux porteurs de paix dans ce monde troublé. Nous sommes invités par la Vierge, nous sommes invités de toute façon par l'Église, par toute la tradition, par tous ces saints qui ont vécu, qui ont constitué cette Église et qui l'ont érigée. Car l'Église est bâtie sur les saints, sur le sang des martyrs, comme sur la foi des apôtres, sur la foi de tous ceux qui ont été des confesseurs de la foi. C'est pour ça qu'on dit des saints qu'ils ont été des confesseurs. Ils ont proclamé leur foi en dépit de tout. Eh bien, toute cette Église nous enseigne la paix et d'être des porteurs joyeux. Il n'y a rien de plus triste que des saints tristes. C'est inconcevable comme les chrétiens ne sont pas toujours assez joyeux, à mon avis. Et combien nous devrions sortir de nos églises sourire aux lèvres, porteurs du Christ, joyeux, heureux, afin de transmettre aux gens autour de nous le désir de mieux faire et le désir de la justice à l'égard des plus pauvres, des délaissés, et de faire comme bien des chrétiens à Montréal qui s'occupent des plus délaissés dans les hôpitaux. Ce sont surtout les chrétiens, d'ailleurs, qui s'occupent des sidés à Montréal. Combien de chrétiens s'en occupent, ont ouvert des maisons, aussi assistés par des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui font aussi de l'excellent travail de charité ou de dévouement auprès des autres. Je vous enjoins donc de faire comme les saints et de les imiter.